Radio Scarpe Sensée. Élection municipale Douai 2020. Jacques Breynaud, tête de liste, vision d'avenir Douai géant. Interview.
Jacques Breynaud, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous me recevez aujourd'hui chez vous dans le cadre de cette campagne puisque vous êtes candidat avec une liste dont je vous laisse nous rappeler le nom.
La liste s'appelle Vision d'avenir Douai géant.
On va parler de cette liste, mais avant tout également faire connaissance. Qui êtes-vous ?
Alors, si je parle sur le plan un peu personnel, je suis un homme marié avec une épouse qui est bénévole chez Emmaüs. J'ai deux enfants qui sont maintenant autonomes et qui travaillent sur Paris. J'habite à Douai depuis un peu plus de 6 ans maintenant, après une longue carrière dans différentes régions de France. Alors, carrière qui a été composée par, je dirais, en 3 grands temps, un temps où j'ai été un conseil en développement sur Grenoble, sur la technopole de Grenoble, où j'étais entouré d'entreprises de haute technologie. Et j'ai fait exercer cette activité pendant une bonne 15 années en étant directeur associé de ce cabinet. Et puis, en même temps, j'ai parallèlement eu une activité d'enseignant. J'ai été prof à Sciences Po Grenoble et également à l'Institut français de gestion. Après ces grands passages, où mes bureaux ont fini par être à Paris, puisque j'étais essentiellement beaucoup à Paris, j'ai quitté pour rentrer dans l'univers de l'habitat social en prenant les fonctions de directeur de développement à l'Union HLM, en charge notamment de la modernisation des organismes HLM, ce qui m'a permis de fréquenter un peu toutes les grandes métropoles de France et de bien connaître toutes les problématiques liées à l'habitat de ces grands quartiers sociaux en France et le problème de ces grands organismes qui avaient vraiment besoin de se moderniser. Et puis j'ai quitté cet univers en étant happé par un très gros organisme, Paris Habitat, 120 000 logements, où j'ai eu 2 activités. Je m'occupais de la qualité du parc, du patrimoine, les 120 000 logements, et j'avais également une activité hors HLM et dans laquelle en particulier je dirigeais un service qui gérait les 5 000 ou les 4 700 commerces que nous avions à Paris. Ce qui m'a amené à avoir beaucoup d'activités avec les sociétés d'aménagement et d'économie mixte de la ville de Paris à cette époque. Et puis, je suis resté que quelques courtes années parce que un des directeurs généraux qui m'avait embauché était parti et c'était devenu pour moi extrêmement politisé. Il y avait un embrouillamini entre le fonctionnement de cette société, le jeu des partis politiques qui se battaient entre eux. Ça rendait très difficile le vrai exercice du métier. Et puis, je suis parti pour être embauché comme directeur général d'une société d'HLM dans et ensuite en même temps de sa maison mère, une coopérative, et puis au sein du groupe Action Logement où nous étions, j'ai créé aussi une société dont j'étais administrateur unique, chargée du développement et de logement sur le bassin parisien. Voilà. Et puis j'ai quitté ce secteur pour venir enfin dans ici, à Douai, parce que j'estimais que le 1% n'avait peut-être pas une vraie sensibilité sur ce qu'est le logement social. Voilà. Et je suis arrivé à Douai donc, pour prendre la direction générale de Norévi, puis de Floralis, voilà, pendant ces 6 dernières années.
Vous n'avez jamais été engagé politiquement ?
Je n'ai jamais été engagé politiquement parce que j'ai toujours beaucoup de distance avec le fonctionnement des partis politiques. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des militants de partis, mais très vite, quand on côtoie ces gens-là, quels que soient les partis, j'ai eu l'occasion d'aller regarder en curieux des partis de, on va dire, droite sociale ou un peu socialiste, etc. Et j'ai vu que les gens sont très très vite très très militants, mais dans les mauvais sens du terme, c'est-à-dire très très critiques dès que c'est un parti opposé qui parle, très critique avec un discours unique. Enfin, ça m'a toujours beaucoup dérangé parce que je trouve qu'il y a des gens brillants dans toutes les structures politiques. Voilà.
Dans cette nouvelle aventure que vous tentez, vous n'êtes pas seul, il y a la liste Vision d'avenir Douai géant. Quelques mots sur cette liste.
Cette liste, elle est composée de personnes qui avaient été appelées par toutes les autres listes. Et aucun d'entre eux n'a souhaité aller dans les autres listes en se disant on va enfin s'occuper de nous-mêmes. On a été manipulé par les anciens lors des dernières élections et on en a marre, on nous a trahis et on veut trouver quelqu'un qui vienne nous aider à porter notre liste. Et ils sont venus me voir. C'est parti de là. Et ce sont pour partie au départ des militants associatifs de l'ensemble des quartiers. Et en arrivant, j'ai donné une autre impulsion aussi, c'est de dire, un, il faut partir du terrain parce que la verticalité, on commence tous à en avoir marre, hein, la vérité qui descend du ciel. Et puis en même temps, j'ai apporté une autre dimension en la charpentant avec des professions libérales, les avocats, des médecins, des ingénieurs, voilà. Donc on a une liste qui est très riche, dont l'âge moyen est autour de 42 ans, donc c'est pas que des retraités, c'est pas que des jeunes, et puis il y a toutes les strates sociales, enfin, c'est vraiment c'est le grand étirement entre, je dirais, la classe bourgeoise à une extrême et les milieux populaires d'un autre côté, et puis il y a également toutes les sensibilités politiques, parce que quand on discute peu entre nous de ça, parce que c'est pas l'objet, mais on voit bien qu'il y a des gens qui votent pas du tout comme moi et réciproquement, mais à la limite, on pense qu'il y a une intelligence collective à être ensemble et différent et à construire un projet qui est précis. Voilà.
C'est quoi ce qui vous différencie du ni gauche ni droite ?
Ce qui nous différencie de ni gauche ni droite, ben, le fait que, alors, le fait de ne pas être dans un parti déjà, et le fait de ne pas être dans un parti, ça nous donne une liberté de parler. Et cela nous permet aussi d'être en capacité de pouvoir fonctionner avec tout le monde. Et on voit bien que, pour moi, c'est un drame, le système démocratique aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'un élu qui détient une mairie avec une couleur politique n'aura autour de lui que des gens qui vont s'opposer à sa réussite s'ils sont de partis opposés. Ça, c'est le jeu, c'est la logique de ce système. Bon. Et donc, on ne se grandit jamais avec ça. Et le fait de dire, nous, on n'est pas rattaché à ça, pour nous, est un avantage, parce que finalement, on est capable de discuter sans porter préjudice aux intentions et aux desseins des instances politiques. Voilà.
Radio Scarpe Sensé. Élection municipale Douai 2020. Jacques Brénaud, tête de liste, vision d'avenir, Douai géant. Interview.
Jacques Brénaud, on va parler de votre programme. On va s'attacher à la question de l'attractivité de la ville. Ce qui ressort à chaque campagne, c'est la problématique du commerce centre-ville. Le constat est fait que c'est compliqué de maintenir un commerce à Douai, cœur de ville. Qu'est-ce qui se passe et comment on y répond ?
Alors, d'abord, la réponse, c'est une réponse qui, comme j'ai souvent dit à ceux qui me posaient la question quand j'ai rencontré les commerçants, c'est pas une réponse à un problème, une idée. Non, c'est un système complet qu'il faut traiter pour répondre à la question. Alors, je vais essayer de l'aborder très simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que, un, il n'y a pas de malédiction. Qu'on a vu des villes, ce sont des phénomènes qu'ont rencontrés toutes les villes moyennes, pour une raison simple, c'est que tous les élus qui avaient la main sur le fonctionnement de leur cité ont tous commis l'erreur, avec une vision à très court terme, de créer des grands centres commerciaux. Parce que ces grands centres commerciaux, on le dit bien, c'est vu, sont des formes de pompes aspirantes, déjà, qui ont tué des commerces. On l'a bien vu à Douai, on a déshabillé Paul pour habiller Jean. Et les commerces qui se sont installés au Luc, et un grand nombre qui étaient à Douai et qui sont partis au Luc parce qu'ils avaient des avantages et des conditions plus favorables à exercer leur activité. Donc déjà, ça veut dire que, alors que ce soit la gratuité des stationnements pour les usagers, que ce soit des loyers à peu près abordables, ce qui n'est pas du tout le cas à Douai. Ouais, bon, donc on s'est donné des bâtons pour tomber, quoi. Ensuite, rien n'a été fait pour entraîner et faire en sorte que la ville soit un peu moins triste, quoi. Il y avait quand même moyen de faire en sorte que quand on arrive à Douai, qu'on veut flâner, circuler, c'est incompréhensible d'arriver en voiture à Douai. On ne sait jamais par où il faut aller, comment, comment, où est-ce qu'il faut bien se garer. Enfin, il y a vraiment un vrai problème d'organisation des circulations qui est à penser. Donc, vous voyez, j'évoque déjà différentes choses. La sécurité et la propreté, c'est les deux gros sujets aussi. J'ai vu que c'était les deux grands sujets de la ville de Paris, mais Paris n'a pas de problème économique, tandis que nous, on en a. Et puis, on a ces problèmes de sécurité. Alors, dans l'un d'entre eux, puisque c'est un sujet qui a été abordé, je crois, dans l'Observatoire du Douaisis, mais c'est aujourd'hui, je crois, on a soi-disant une police municipale. Mais ce n'est pas une police municipale. On a des pervenches. Ils sont là, ils passent trois quarts de leur temps, mettent des PV. Bon. Et quand il y a des problèmes de désordre, d'agression, de vol, de cambriolage, ils ne sont pas présents, ils n'agissent pas.
Vous dressez le constat, on va quand même parler un peu de solutions. Qu'est-ce que vous proposez donc? Alors, pour en revenir, finalement, pour réintroduire le commerce parti dans les zones commerciales et l'inviter à nouveau être en centre-ville?
Alors, on va faire les choses... Il y a deux choses. Il faut qu'il y ait à la fois une offre et une demande. Donc déjà, il faut traiter le problème de la demande. On a une ville qui s'est paupérisée en son centre. Il faut absolument qu'on, éradique les marchands de sommeil et que les gens démunis soient gérés dans le parc social et pas dans le privé. Deux, il faut que cette offre de logement des marchands de sommeil se remette à niveau avec des normes. Il y aura le permis de louer et soit restructurée pour pouvoir accueillir des classes moyennes. Ou des seniors, ou des jeunes. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire à des gens « venez », il faut aussi qu'il y ait du public qui puisse consommer. Ensuite, c'est des actions, on a tous les outils pour ça, hein, pour faire de la préemption, négocier.
Il existe le parc social nécessaire pour que ces gens puissent tout de même avoir un logement décent?
Ben oui, il y a le parc social, il existe. Si vous regardez le taux de vacances dans le parc social, il y a encore de la place. Hein, il y a 2-3% sur un parc de 20 000 logements ou 30 000 logements tout confondu, il y a de quoi. Enfin, c'est pas un problème. Là, il s'agit de quelques centaines de familles dont je parle. Hein, c'est pas le bout du monde, mais qui vont donner de nouveaux signes sur l'image et qui vont avoir un effet d'aspiration pour que des gens reviennent habiter tranquillement et en toute sérénité en cœur de ville. Il y a, bien entendu, une politique de loyer qu'il faut maîtriser. C'est une ville où les loyers sont trop élevés. Il est moins coûteux d'être locataire dans un centre commercial, il faut qu'il y ait sur la ville, on ait les mêmes conditions économiques. Donc ça va passer par une politique de rachat de locaux, pour remettre à disposition des locaux avec des conditions économiques qui conviennent. Il faudra aussi qu'on n'ait pas ce discours que j'ai entendu plusieurs fois de commerçants, de futurs investisseurs qui sont arrivés, qui se sont dit « Ouh là là, impossible de stationner, de circuler, on va s'installer ailleurs ». Donc ça revient sur le problème du traitement des circulations, du stationnement et des politiques dans ce domaine. Il faudrait aussi qu'ils soient accompagnés parce que quand je vois qu'il y a deux poids, deux mesures entre des commerces indépendants, et c'est tout à fait louable, il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aider. Je ne vois pas pourquoi on aide des particuliers à faire du ravalement de façade et pourquoi on n'aide pas un commerçant à faire une belle façade. Parce que c'est la ville est gagnante. Il n'y a pas que le commerçant. C'est les rues sont données à voir à tout le monde. Donc avoir de belles façades, remises dans de belles conditions, ça me paraît très important. Et là-dessus, il faut faire les choses dans le bon sens, ce qui ne me semble pas être le cas d'après ce que j'entends dans les témoignages. Dans ces questions-là, il faut aussi qu'on puisse arriver en ville, pouvoir stationner, faire ses courses, transporter ses affaires, être avec de la sécurisation. Ce qu'on trouve dans les centres commerciaux qu'on n'a pas, voilà.
Gratuité du stationnement.
Alors je veux pas faire un slogan en disant gratuité du stationnement comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que ça doit être un objectif. En tout cas dans l'hypercentre et dans ce qu'ils font les deux trois rues historiques où il y a tous les commerces, où là effectivement, enfin c'est, et je dirais en fait je pensais stationnement, je pensais plus à l'idée de stationnement de minutes et de stationnement qui soit en relation avec les commerces. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut. Il y a plusieurs. J'ai pas de réponse technique. Il faudra les forger et étudier la question des meilleures solutions avec les commerçants eux-mêmes. Mais l'idée que venir en ville, se garer est un problème et il faut que ça soit facilité pour tout le monde. Ça, c'est un objectif. Il est clair.
revoir le plan de circulation afin d'inviter plus facilement l'automobiliste à accéder au centre-centre plutôt que, comme actuellement, l'inviter à faire le tour de la ville?
Non, mais faire le tour de la ville ou pas, pour moi, c'est pas un problème. Si on sait comment circuler, il faut pas que les voitures aillent en cœur de ville systématiquement. Ça doit pas être ça l'objectif. L'objectif, c'est ça doit être quand on arrive aux entrées de la ville, savoir où aller se garer dans les parkings existants. Voilà, avec une vraie connaissance des possibilités de stationnement, peut-être renforcer des vocations comme la place du Barlet aussi pour son stationnement, peut-être le sécuriser. Et j'imagine aussi d'autres formes de stationnement qui seraient plutôt des parkings relais aussi qu'il faudra mettre en place avec des navettes qui relient pour qu'un certain nombre de publics aient envie d'aller en ville, mais en venant en navette et pas en venant avec leur propre voiture.
Suite de cette interview de Jacques Breynaud, tête de liste, vision d'avenir, Douai géant dans un instant. Et nous parlerons entre autres sécurité, vie des quartiers, mobilité, propreté, environnement et écologie.
Radio.
Scarpe, sensé.
It's always been about me, myself and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do?
Radio Scarpe Sensée, élection municipale Douai 2020. Jacques Breynaud, tête de liste, vision d'avenir Douai géant. Interview.
Donc la question du commerce, si je résume, c'est plutôt une question de clientèle qui est nécessaire de pouvoir attirer centre-ville.
Ça, plus le fait d'avoir des conditions d'accueil et d'installation qui facilitent l'installation des commerçants et qu'on les écoute sur les problèmes de sécurité qu'ils rencontrent. Quand j'ai un commerçant qui, rue de Paris, me dit dans notre rue, on a eu en 15 jours plus de 15 cambriolages, il y a quand même problème, quoi. Hein. Et qu'ils disent qu'ils commencent à en avoir marre. Quand ils disent qu'ils sont eux-mêmes obligés de faire la police parce que la police municipale n'a pas mission d'intervenir quand il y a des problèmes, des désordres. Et tout ça, faut créer toutes ces conditions.
Faut redéfinir les priorités de la police nationale ou de la police municipale, où il faut davantage d'agents justement affectés à cette sécurisation.
Je ne crois pas au fait qu'en mettant 10 agents de plus, on améliorera la situation. Il faut, un, changer les missions, resituer les missions. Alors d'un côté, avec des missions de médiation, et d'un autre côté, des missions de vraie police. Parce que tout ce que j'entends, c'est qu'à part mettre des PV, sur tous les autres registres, la police n'intervient pas. La police municipale, j'entends. Et je crois par contre beaucoup plus à l'idée d'installer des réseaux très denses et de très haute définition de caméras intelligentes, avec un centre qui sera en capacité de visualiser les secteurs où il y a des difficultés qui semblent arriver d'après l'analyse qui sera faite des images et de permettre à la police d'intervenir. Parce que là, elle sera efficace. Et toutes les villes qui ont fait ça ont vu leur efficacité augmenter, mais dans des conditions considérables. Parce que mettre 20 agents de plus, ça va coûter très cher. Et ils ne seront jamais là où il faut. Ils ne seront jamais là où il faut. Et donc, il faut là une présence permanente de caméras, de réseaux denses, intelligents, qui feront leur boulot.
L'investissement, vous connaissez un petit peu le montant d'un tel investissement ?
Je n'ai pas de devis parce qu'il n'y a pas eu d'études techniques faites dans ce domaine. Ce que je sais, c'est que, un, il y a déjà eu des réseaux mis en place et de toute façon, ils sont obsolètes, il faut les changer. Parce que les réseaux existants sont de très mauvaise qualité. Donc la question ne se pose même pas de combien ça va coûter ou pas. La question est, en a-t-on besoin pour assurer et améliorer fondamentalement la sécurité ? Oui, parce que tous les défauts, les autres... Le fait d'avoir une très mauvaise sécurité coûte très cher à la collectivité. Par le fait qu'il y a des commerçants qui ne veulent plus venir ici et s'en aller, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir le soir et qui s'empêchent de consommer pour ces raisons-là, et ainsi de suite. Ça coûte beaucoup plus cher. Les effets d'un dispositif de sécurisation qui n'existe pas coûtent en fait très cher à la collectivité.
Jacques Breno, doué à cette particularité d'avoir un centre-ville et des quartiers très excentrés, qu'est-ce qu'il faut faire pour les habitants de Frémarais afin qu'ils se sentent plus douaisiens demain et plus dans cette ville ? Amener du service à Frémarais ou faciliter la mobilité des habitants vers le centre-ville ?
Je ne suis pas pour l'idée de sanctuariser les quartiers, c'est-à-dire le fait de se dire on doit tout trouver dans un quartier. Pourquoi ? Parce que l'expérience a montré que c'est comme ça qu'on a créé des ghettos, petit à petit, et des gens qui ne savaient plus ce que c'était que la ville. Donc je suis plutôt favorable à l'idée que, un, il y a quand même un certain nombre de services de la ville qui devraient, eux, être délocalisés. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'office municipal ne serait pas à Frémarais, par exemple ? Pourquoi telle autre antenne ou tel bureau technique de la ville ne serait pas dans tel autre quartier à Gaillan ? Ça, oui, se disséminer pour dire que tous les quartiers, c'est un seul grand quartier, c'est une seule ville. Ça, c'est la première chose. Donner ces signes. Après, de laisser un caractère résidentiel au quartier, ça ne me dérange pas du tout. Ça peut être très bien vécu. Encore faut-il qu'on fasse ce qu'il faut dans le traitement de ces quartiers. Quand on regarde la sécurité, les éclairages, la propreté, il y a deux poids, deux mesures dans le paysage. Il y a la ville, c'est mal fait, mais... Les quartiers, c'est pire que tout. Quand on fait des reportages ou quand on va voir, il faut tout traiter de la seule façon. Ce que je crois, c'est qu'il faut désenclaver ces quartiers-là pour que les gens qui sont dans ces quartiers-là puissent vivre la ville. Moi, j'ai entendu des habitants me dire « Mais vous savez, on serait bien allé au cinéma, on serait bien allé au théâtre, mais on n'a pas de voiture, donc on ne peut pas rentrer le soir. Ben, » On met des réseaux nocturnes de navettes, par exemple, et ça permettra de résoudre un peu ce problème. Faciliter la mobilité des gens. Sinon, on fabrique, je dis bien, des ghettos, des enclos.
Voilà. En complémentarité de l'offre du SMTD ou ça doit être une offre élargie du syndicat mixte des transports ?
Ça peut être une offre élargie du syndicat et de toute façon dans une vision très différente. D'abord parce que il y a certainement des gens très honorables dans ce syndicat, mais je suis effrayé qu'on ait acheté récemment toute une flotte de bus diesel, ce qui me paraît tout à fait aller à l'encontre de la politique de notre pays et de notre région et de notre ville. De continuer à avoir des véhicules comme ça. Et je ne comprends pas non plus pourquoi ce syndicat est propriétaire de sa flotte et ce n'est pas l'exploitant lui-même c'est lui, l'exploitant, qui devrait être propriétaire de sa flotte. Ce n'est pas au syndicat. Moi, j'ai géré dans une vie antérieure des dizaines de délégations de services publics. C'était l'exploitant qui achetait et qui gérait à ses risques. Or là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la SMTD qui prend sur elle un certain nombre de risques qu'elle ne fait pas porter sur son exploitant. Dans toute la logique, ça devrait être comme ça. Voilà. En tout cas, il y a une relecture à faire de la politique du SMTD.
Mais le problème, c'est que si on va vers, je ne sais pas si ça fait partie de notre programme, mais sur une idée de gratuité du transport, ce serait beaucoup plus compliqué, cette fois-ci, à négocier avec l'exploitant.
On est très réaliste. La gratuité du transport qui existe dans un certain nombre de villes existe parce que ces villes ont une taxe payés par les entreprises et ces villes peuvent se le permettre. Douai ne le peut pas aujourd'hui. C'est pourquoi notre programme est un des seuls programmes qui a une vraie lecture sur des enjeux économiques et la nécessité de capter et de développer le tissu économique sur Douai. Par contre, on peut penser à des gratuités, à des publics très précis.
Radio Scarpe Sensée, élection municipale Douai 2020. Jacques Brenneau, tête de liste, vision d'avenir Douai géant. Interview.
Vous l'avez évoqué depuis le début de notre entretien, question de la propreté. C'est du ressort de la municipalité ou c'est du ressort de l'administré, de l'habitant? Si la ville, elle est sale, elle ne l'est pas par hasard.
Il y a dans la question la réponse, c'est les deux en général. Mais la vérité est qu'on ne peut pas rééduquer toute une population qui a des comportements incivils. On peut par contre avoir une démarche un peu plus oppressive quand même, parce qu'il y a des gâchis. Dans ma propre rue, tous les lundis matins, c'est immonde, c'est sale. Bon, mais ça pourrait ne pas exister. Alors on pourrait peut-être développer un peu plus de communication dans les cafés-restaurants, mais qui sont très sensibles, en leur demandant aussi de demander à leurs clients de faire attention, de ne pas jeter des mégots, pas jeter des canettes comme ça. Bon, mais il faut aussi penser que pour que les gens adoptent des comportements nouveaux, il faut que ces gens-là soient aidés dans la démarche. Et la première des démarches, c'est de dire, est-ce qu'on a assez de cendriers de ville? Par exemple, devant tous les cafés, devant tous les restaurants, il faut des cendriers. Les gens font fumer dehors, il n'y a pas de cendriers. Ben, on met des cendriers. Les poubelles, c'est pareil, il n'y a pas assez de poubelles. L'autre jour, j'ai voulu traverser, j'avais un papier dans la main. J'ai dû faire 150 mètres avec le papier dans ma main avant de trouver une poubelle. Donc, je ne dis pas qu'il faut en mettre tous les 50 mètres. Mais quand même, si on fait des cheminements, on sera étonné de voir qu'il y a quand même très peu de poubelles. Donc, il faut aussi faciliter le geste. Il faut que la ville fasse avec un certain nombre de petits investissements en mobilier urbain, un demi-effort et l'autre effort sera beaucoup plus simple. Mais il faut aussi être très dur. Par exemple, les caméras seront capables de visualiser et d'analyser si un chien est en train de faire caca, ses déjections sur un trottoir. Et on pourra voir à qui appartient le chien. Bon, donc il faudra aussi être très clair avec ça. Il y a les gens qui ont des comportements incivils, ben, il faudra aller les voir, quoi.
La propreté, c'est une pollution visible. Il y a d'autres enjeux liés aujourd'hui à l'avenir, des enjeux environnementaux. Quelle place vous lui donnez dans votre programme? Comment on fait pour que Douai soit une ville qui se tourne vers la transition écologique, entre autres?
Alors, pour vous dire que ce n'est pas un effet de campagne, quand j'enseignais à l'Institut français de gestion il y a plus de 30 ans, j'expliquais en étudiant, j'avais un programme qui s'appliquait et qui s'intitulait « Analyse la dynamique des environnements ». Et j'expliquais comment comprendre les évolutions possibles de notre environnement. Et j'expliquais à l'époque qu'il y avait quatre grands univers dans la façon de modéliser le système et qu'il y en a un cinquième qui arrivait maintenant, qui était l'environnement et l'écologie. C'était il y a 30 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui que j'y pense. Et puis, d'ailleurs, j'ai des bouquins dans lesquels j'en touche quelques mots quand même. Donc, dans notre programme, on a signé le pacte de transition citoyenne, dans lequel il y a 32 propositions. On s'est engagé sur à peu près une vingtaine d'entre elles pour travailler sur la question. Parce que la ville du futur, c'est une ville qui est numérique et qui est verte. Donc, on va être extrêmement attentif au droit à la fraîcheur. Penser qu'il y aura des épisodes caniculaires de plus en plus importants. Il faut donc que ce soit offrir la possibilité aux habitants partout en ville et dans les quartiers d'avoir des lieux, d'espaces, de refuges pour avoir de la fraîcheur, des fontaines d'eau, enfin tout ça. Il faut penser également qu'en matière d'équipement, de matériaux, on définisse un cahier des charges qui permette d'utiliser des matériaux les plus réfractaires, enfin qui renvoient le plus de lumière, on appelle ça l'albédo. Pour que ça chauffe moins, ce qui pose déjà problème parce qu'on a plusieurs places qui sont des vraies fournaises, dont la toute dernière, place Dauphin, et qui a non seulement commis l'erreur d'être uniquement minéral, avec des éclairages qui ne sont pas du tout les éclairages qu'il faut. C'est des éclairages qui éblouissent tout le monde et qui éclairent le ciel. Voilà. Alors c'est joli, c'est beau tube, sauf que ce n'est pas ça aujourd'hui. Et quand on veut respecter l'environnement et donc la flore et la faune, ben on fait attention à avoir des éclairages qui préservent, je dirais, la vie des oiseaux nocturnes et des insectes. Donc, il faudra déminéraliser un certain nombre de places, y remettre beaucoup de fraîcheur pour que ces espaces soient des espaces agréables à vivre, à respirer aussi. Voilà.
Autre aspect lié à l'environnement et également à la santé, on a parlé de la restauration scolaire. Vous avez des projets également dans ce cadre-là ?
Alors, dans ce cadre-là, les réponses qu'on fait, elles sont liées au pacte de transition dans lesquels on a des engagements sur la proportion d'aliments bio faits avec des producteurs locaux, etc., et sur les politiques d'achat. Entre autres, voilà. Après, pour les questions liées à la tarification, je sais que c'est des vrais sujets. J'avoue que je ne suis pas assez spécialiste. On en a parlé entre nous sans dire, voilà, on va afficher des enjeux autour de ça, sachant qu'il y a quand même des problèmes, on le sait bien. D'ailleurs, M. Chéreau, ça ne lui a pas échappé, puisqu'il y a des petits déjeuners offerts aux enfants, mais avec une participation de l'État importante quand même. Hein. Mais il y a des gens qui ont des difficultés pour s'alimenter. Donc, il faut que... tout le monde puisse se nourrir dans de bonnes conditions. On a un enjeu en tout cas autour de ça qui est de dire on veut la fierté, si j'étais maire, je serais fier d'avoir une ville qui fait tout pour épanouir ses enfants et leur donner des conditions d'épanouissement réussies. Voilà.
Jacques Breno, tête de liste Vision d'avenir Douai Géant, interview dans le cadre de la campagne pour l'élection municipale à Douai. Suite de cet entretien dans un instant, nous parlerons école, santé, dynamisme associatif, sport, culture et l'intercommunalité Douaisy Agglo.
Radio Scarpe Sensé.
Radio Scarpe Sensé.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu n'étais farouche, vois, je ne prends que ta bouche.
Radio Scarpe Sensé, élection municipale Douai 2020. Jacques Breno, tête de liste, vision d'avenir Douai Géant. Interview.
Quelle relation avec les écoles de Douai ?
Ben, les écoles de Douai, c'est des relations sur d'abord résoudre un certain nombre de problèmes liés à la gestion des temps morts, gestion des vacances. On veut créer un service jeunesse qui va être en capacité d'être une porte qui va traiter de façon cohérente tous les sujets qui aujourd'hui sont abordés de façon très disparate, sans qu'il y ait de cohésion entre eux. Après, avec les écoles, on peut avoir de l'assistance sur accompagner à des gestes éco-citoyens, sur l'apprentissage du vélo, parce que on fait du vélo un mode de transport à part entière. Donc, on va faire en sorte que les jeunes écoliers, parce qu'il y aura des directives d'ici 2-3 ans, qui vont pousser les écoliers à aller à l'école en vélo. Donc Donc il faut qu'on ait des circuits sécurisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ils sont souvent très dangereux. Et donc, sauf que si on fait ça, c'est bien gentil, il ne suffit pas d'offrir des vélos, il faut surtout faire en sorte qu'on ait appris aux enfants à faire du vélo. Il y en a beaucoup qui ne savent plus faire du vélo, déjà, commencer comme ça. Donc il y aura, on a aussi, dans le domaine du sport, on veut redévelopper les conventions sport-études aussi, parce que ça manque. On a des champions ici qu'on n'aide pas beaucoup, et c'est un vecteur qui aide et qui guide beaucoup de jeunes pour pouvoir donner un sens à leur vie, quoi, voilà.
On reviendra un peu plus tard sur le sport, justement, dans la question du dynamisme associatif. Avant tout ça, puisqu'on parlait de santé, on s'aperçoit également que Douai a de moins en moins de professionnels de santé, qu'il est compliqué de trouver un médecin de ville généraliste ou spécialiste à Douai. Quelles sont vos propositions ?
Alors, d'abord, on va résoudre ça en parlant d'abord de l'accès aux soins. Et on va lancer une mutuelle pour les habitants. Parce que c'est bien d'avoir des médecins, mais il y a beaucoup qui ne vont pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc d'abord, une mutuelle pour les habitants. On ne serait pas la première ville à le faire. D'autres villes l'ont fait et Douai l'a refusé jusqu'à aujourd'hui, malgré les propositions qui lui avaient été faites. Mais il y aura ça. On a dans le programme 4 ou 5 projets, dont effectivement se mobiliser pour attirer des structures qui vont pouvoir faire et favoriser l'installation de médecins. On a parlé de Filieris il y a peu de temps, société qui ont des vocations privées, mais qui se créent des moyens pour pouvoir installer des médecins. Donc il y a ça, et puis il y a continuer à regarder comment on peut, dans les moyens d'une ville, aider des médecins à s'installer, voilà, en donnant des facilités. En tout cas, je ne sais pas si on aura toutes les billes pour arriver à résoudre le problème, mais ça doit être une préoccupation permanente de tous. J'en suis la première victime, puisque depuis 6 ans, mon médecin de famille est à 150 km d'ici, et je n'arrive pas à en trouver un ici, vous voyez, donc voilà, il faudra bien que j'en ai un jour.
Donc favoriser l'implantation de médecins, leur donner des moyens, c'est quoi ? C'est aider à la création de maisons médicales, c'est quoi ?
Ça peut être une maison médicale, ça peut être une maison de santé, ça peut être. Les formules sont nombreuses. Après, je n'ai même pas encore été rencontré le directeur de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital ne pourrait pas aussi décentraliser des petites antennes comme des dispensaires dans des endroits à droite et à gauche, plutôt que tous ces gens-là se posent la question de comment on va aller à l'hôpital si on n'a pas de moyens. C'est plutôt regarder s'il n'y a pas des conditions pour délocaliser un petit peu au plus près des habitants les services hospitaliers.
On parle de dynamisme associatif autour du sport, de la culture, également de la citoyenneté. Le sport, vous l'avez déjà évoqué, il y a des choses à faire, besoin d'infrastructures supplémentaires, un autre accompagnement pour les associations sportives.
Alors, pour les associations sportives, j'allais dire s'assurer que toutes ces structures-là aient des encadrements qualifiés. Parce qu'une structure qui propose à des jeunes de pratiquer un sport sans qu'on sache si les gens qui animent sont des gens formés et qualifiés, ça me pose problème. Donc il faudra se dire, on se doit d'accompagner et d'aider ces structures à avoir des gens qualifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on voit bien qu'il y a des tas d'équipements qui sont pas à la hauteur de ce qu'une ville comme nous devrait avoir. Il y a un stade d'athlétisme qui est complètement obsolète. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors j'ai entendu dire qu'on allait s'en préoccuper. Enfin, on attend. C'est peut-être parce que ce sont les élections qu'on s'en occupe aujourd'hui. Je suis pas gentil en disant ça, mais c'est un peu la réalité. Il faut s'assurer que tous les clubs et les moyens de bien exercer leur activité, ça c'est clair. Et que ça doit être une préoccupation de la ville que d'aider les clubs à agir dans des conditions appropriées. Parce que tous ces jeunes encadrés, ce sont des jeunes qui vont pouvoir avoir une vraie éducation, une vraie sociabilité, et ça évitera d'avoir des jeunes qui traînent, qui sont en déshérence et ou qui rentrent dans la drogue et le trafic de drogue. Et pour vous dire, j'ai vu un travail formidable fait par quelques associations, quand je ne les ai pas toutes vues, je ne les citerai pas, mais en tout cas un de ses directeurs me disait, vous savez, aujourd'hui il y a des jeunes de 12 ans qui font le guet pour la drogue. Or, autrefois, on avait les moyens de les encadrer et de s'en occuper. Or, ils n'ont plus ces moyens, donc il faut arrêter avec ça. Il faut absolument que ces structures qui ont des missions éducatives puissent exercer ces missions éducatives. Voilà.
Dans le domaine de la culture ?
Domaine de la culture, d'abord, il faut que la culture soit la plus populaire possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une culture réservée à une élite. Tout le monde peut accéder à la culture. Donc, il faut regarder. Il y a des publics qui ne peuvent pas s'offrir des manifestations culturelles. Il faudra peut-être regarder comment on peut y résoudre. Ben, ça sera des participations, hein, des tickets réduits, des choses comme ça. Et puis, dans la culture, mais je pense la culture au sens large, on veut nous créer un centre culturel du type 104 à Paris, qui est un centre dans lequel on a des tas d'artistes qui viennent s'installer, faire de l'activité, faire leurs ateliers, où on peut avoir des tas d'associations de musique qui peuvent venir faire de la musique, voilà. Un lieu vivant avec des cafés, etc. Donc on veut créer ça aussi pour donner de l'animation à la ville, une forme, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y a aussi tous les commerces qui existent et les cafés, hein, qui ont aussi leur place. Et puis surtout se dire, quand un restaurateur ou un café-restaurant qui déjà a une petite scène et dit « moi j'ai une telle demande que je voudrais doubler ma surface ben, », l'aider à le faire. Or aujourd'hui j'ai des exemples en tête de deux cas de figure où on leur dit « non, on ne vous aide pas, débrouillez-vous, ça ne nous intéresse pas ». Je dis « mais c'est quoi ?» C'est pour ça que j'ai appelé « libérer les initiatives ». Considérer que quand il y a des gens qui ont des initiatives, on doit être absolument là pour les aider. Pas se dire c'est pas notre problème.
Radio Scarpe Sensé. Élection municipale Douai 2020. Jacques Breno, tête de liste, vision d'avenir Douai géant. Interview.
Jacques Breno, tout à l'heure vous me disiez pour constituer la liste, finalement on y retrouve des personnes qui ont était déçu de ne pas avoir été entendu, pris en compte. Comment vous assurez justement le dialogue avec les administrés si jamais vous êtes élu ?
Ben, le dialogue, on va le maintenir d'abord de plusieurs façons. On dit que notre organisation des services de la mairie va évoluer en fonction de nos projets. C'est-à-dire qu'il y aura des mouvements dans la façon d'avoir structuré les différents services. On va avoir, je vous l'ai dit, un service jeunesse. On va avoir un service promotion et développement pour développer tout ce que la ville va faire et le faire savoir. Car aujourd'hui, personne ne sait tout ce qui se passe dans cette ville. Et puis, en plus, comme on est très attentif au développement économique, aussi travailler l'image de la ville pour attirer des investisseurs dans des sens bien précis. J'y reviendrai si on aborde le volet de l'économie. Et également, en ayant une gestion de démocratie locale réelle. Dans notre plan, tous les conseils de quartier auront un budget. Un budget qui permettra à chaque conseil de quartier, à discrétion, de regarder les bonnes orientations pour le quartier d'un certain nombre de travaux. Voilà. Donc ça sera une forme de lien modifié, parce qu'on ne sera pas dans un système ascendant d'informations qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Et puis, tous les membres de notre liste, quand vous avez vu, on a marqué qu'on avait des référents et des référents qui vont rester dans le territoire. Parce que on considère qu'il ne faut jamais lâcher le lien avec le terrain.
Parler du développement économique, on va par là également aborder la question de l'intercommunalité, puisque le développement économique est une compétence de Douai Agglo. Demain, 19 représentants de la ville de Douai. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette représentation ? Quels sont les axes avec lesquels la ville doit prioritairement travailler, selon vous ? Et quelle est la place de Douai dans cette communauté d'agglomération ?
La place de Douai, c'est de rappeler que c'est la ville centrale et que si Douai meurt, la CAD meurt.
Elle a été oubliée, cette place ?
Je trouve qu'elle est un peu laissée de côté. Elle est laissée de côté quand on a vu se développer les centres commerciaux, parce que ça a déshabillé la ville et on n'en a pas tenu compte. Elle est oubliée quand on pense que le traitement des ordures ménagères doit être repensé dans les cycles, les heures, les techniques. avec notamment des colonnes enterrées, toutes ces poubelles qui traînent sur les trottoirs, c'est assez inadmissible pour moi. Parce que personne ne sait quand, à quel jour et à quelle heure il faut les laisser. Quoi. Donc on a, je vois ça dans ma rue, il y a des jours, pendant deux jours, on a des poubelles comme ça, des sacs, parce que les gens ne font pas attention. Donc il faut, si on veut de la propreté, il faut aussi la passer par là. Et je pense que la ville n'est pas entendue et qu'elle a laissé passer beaucoup d'opportunités qui se sont faites au profit de la CAD, et d'un certain nombre de communes, et au détriment de la ville. Je voudrais quand même rappeler que quand je vais sur les places de marché, et quand on demande aux gens « mais vous venez d'où ?», la moitié, voire les trois quarts, ne sont pas de Douai. C'est-à-dire que tous ces gens-là profitent des services qu'apporte la ville, mais à moindre frais, parce que tous les impôts sont payés par les Douaisiens. Donc, retrouver sa place, c'est aussi, à un moment donné, un combat pour faire comprendre que Douai fait profiter l'ensemble des communes autour d'elle de ses propres services et qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des rééquilibres dans la façon de financer les participations des uns et des autres.
Ça passe.
Après, vous vouliez que je parle d'un certain nombre de postes, bien entendu, les postes liés au développement économique et culturel, parce que c'est quand on vient pour la culture, on vient à Douai, hein, on ne va pas à Marchiennes ou Archéos, c'est déjà tellement loin, je ne sais pas si tout le monde a le réflexe d'aller sur Archéos, je ne crois pas, à part les écoliers. Donc non, c'est la ville doit reprendre en main son destin. J'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui.
Souhaiteriez présider à l'avenir de Douaisis Agglo si vous êtes élu?
Non, pas présider Douaisis Agglo, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir les postes clés qui permettent de développer l'environnement global de la ville. Je dis la ville et son environnement qui impacte sur la ville. Voilà.
On sait que dans le développement économique, Douai et Douaisis Agglo travaillent sur des projets communs. Là aussi, il y aurait toujours cette concertation, mais sur d'autres types de projets.
Il faut absolument que tout ce qui se passe soit fait en concertation avec Douai. C'est Douai le moteur, ce ne sont pas les petites communes autour de Douai, ce n'est pas vrai, c'est une tromperie. C'est Douai qui doit être le fer de lance et le promoteur. Et on n'a pas besoin d'avoir un président de cadre pour ça. Si on avait un modèle où le président changeait tous les ans, ce serait très bien même à la limite. Comme ça, chacun comprendrait le rôle d'un fonctionnement coordonné et on éviterait, comme trop souvent, des rentes de situation. Voilà. Mais ça, c'est partout en France. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, les concertations, et des concertations bien pensées, parce que quand je vois le grand projet sur la gare, bon, qui arrive 20 ans trop tard, quoi. Enfin, je veux dire, c'est il y a 20 ans qu'on aurait dû faire ça, quand je vois toutes les autres villes, mais quand on a vu le rebond qu'a fait le TGV dans toutes les villes qui ont eu des gares TGV, on ne l'a pas connu, c'est qu'à l'époque, il fallait peut-être prendre conscience qu'il fallait saisir cette opportunité. Mais ce projet-là, j'ai pas l'impression qu'il soit concerté réellement comme il faut. Parce que j'ai vu des gens, par exemple, qui habitent le long de la gare, qui disent on ne sait même pas ce qui va nous arriver, on n'a même pas accès au vrai projet, donc les habitants, la place de l'habitant est un peu délaissée. Alors, il y a peut-être, bien sûr, des documents qu'on peut aller consulter, etc. Mais enfin bon, il faut aller à la mairie, il faut aller au SCOT, il faut, etc. C'est pas bien ça. Il faut que les choses soient beaucoup plus simples. Je ne pense pas que les instances, le syndicat MEDEF n'a jamais été consulté, parce qu'il y a quand même des chefs d'entreprise, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent aussi. Hein. Ils ont quand même une vision de ce qui se passe, la CCI également, elle a aussi des choses à dire. Hein. Et donc, je suis un peu étonné du fait qu'il y ait sur ces plans-là et sur le plan de l'aménagement des tas de projets qui ne mettent pas autour de la table tous les acteurs concernés.
Encore deux petites questions, le temps passe très vite. Un mandat, ce sera suffisant?
Eh bien, non, bien sûr. Ce n'est pas en claquant des doigts que tout va se faire. Mais en un mandat, il faut absolument faire un choc d'investissement pour aller très vite sur les sujets les plus sensibles. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et dans lesquelles il faut donner l'idée que, enfin, ça bouge, que les investisseurs se disent « Ah, on a confiance dans cette ville parce qu'on voit des choses qui bougent. » Et le seul qui peut commencer à donner l'exemple, c'est la ville elle-même. Voilà.
Dernière question, est-ce que vous avez déjà imaginé différents scénarii à l'issue du premier tour? Quelle sera votre position en cas où vous n'êtes pas parmi les premiers?
Si on n'est pas parmi les premiers, je pense qu'on aura quand même déjà un pourcentage de voix intéressant pour ceux qui le sont ou qui souhaiteraient l'être. Donc on sera en capacité de pouvoir discuter avec quelques listes et se dire que si on se rapproche d'une liste, ou de deux, j'en sais rien, ça sera avec des accords sur des engagements sur les projets que nous avons et la vision qu'on a.
Toutes les listes sont concernées par votre proposition?
Moi, si je me suis engagé, c'est sans parti pris. Mon seul parti pris, c'est de dire « il faut agir ». Donc, c'est pas pour faire, c'est certainement pas pour être dans le clan de l'opposition. Ça sert à rien, parce que dans l'opposition, on a la main à rien du tout, sauf à aboyer, dire qu'on n'est pas content. Et ça, c'est inutile. Et si moi, ma conviction, c'est, je vous l'ai dit, il y a deux objectifs. Un, le redressement économique, et on a un plan d'action avec 5 axes là-dessus. Il faut absolument s'attaquer à ce plan-là. Pour baisser la fiscalité demain, faire venir des classes moyennes avec le développement de cette activité économique, et deux, s'assurer de la démographie qui est en train de chuter et qu'il faut maintenir et remonter. Voilà. Si j'ai des engagements sur les quelques actions que nous avons autour de ça et des méthodes pour y arriver, ben j'irai avec ceux qui sont d'accord pour ça. Sinon, ils se débrouillent.
Hein. Jacques Bruno, merci. Jacques Bruno, tête de liste, vision d'avenir, Douai géant, interview dans le cadre de la campagne pour les municipales à la ville de Douai, interview Hervé Dujardin pour Radio Scarpe 107.